Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
Mais d'abord, c'est un style oral, un style parlé, mais très calculé, avec un rythme secret. Une jubilation du mot, une joie de la syllabe, fait une espèce de dégustation charmante des vocales.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette 7e émission de DT Fabula Narratour, l'émission qui hache menu de grands mots, qui rappe les livres, met le tout dans une grande sauteuse avec un fond de bruit et relève le mélange d'une pointe de stylo. Le tout servi dans un plat chauffé au micro-ondes 106.6. Cette semaine, hélas, nous n'avons pas reçu de courrier des lecteurs.
Oh,
oh, quel dommage, c'est un peu embêtant quand même. Hein.
Oh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Scandaleux.
On espère vivement que la semaine prochaine, Omer de Gravelines, un journaliste en colère, Léon Trolsky ou Bonic de Bons en Barreul nous écriront. Ou peut-être toi, auditeur situé dans un rayon de 30 km ou à l'autre bout du fil de la DSL. Si te venait l'envie de nous dire quelque chose, l'adresse c'est fabula.narratour@laposte.net ou sinon le facteur délivre l'adresse Radio Campus, Université Lille 1, 59 650 Villeneuve-d'Ascq. Privé de notre apéritif préféré, je veux bien sûr parler du courrier des lecteurs, nous avons changé un peu le menu cette semaine. Résumons. La semaine dernière, nous avons ouvert notre nouveau thème sur la faim et entendu comment un individu pouvait être affecté par la faim. Comment son état d'esprit pouvait s'en trouver changé, sans qu'il se trouve plein d'orgueil, soit qu'il s'en trouve humilié. Cette semaine, nous continuerons de creuser dans cette voie-là. Nous nous demanderons, qu'est-ce qui donne faim, qu'est-ce qui allèche ? Qu'est-ce qui au contraire dégoûte et coupe l'esprit ? L'appétit, pardon. Nous verrons que ces questions croisent les catégories de l'abondance et de la privation. Qu'une énumération de plats peut ouvrir l'appétit ou écœurer tout à fait. Que la faim, en tant que privation de nourriture, pourrait ne pas suffire à être scandaleuse. Mais que son abjection se situerait peut-être, plutôt, dans son économie sociale, dans son contexte. Allez, c'est parti.
L'âme, en tant qu'elle a des idées claires et distinctes, et aussi en tant qu'elle a des idées confuses, s'efforce de persévérer dans son être pour une durée indéfinie et a conscience de son effort. Cet effort, quand il se rapporte à l'âme seule, est appelé volonté. Quand il se rapporte à la fois à l'âme et au corps, est appelé appétit. L'appétit n'est par là rien d'autre que l'essence même de l'homme, de la nature de laquelle suit nécessairement ce qui sert à sa conservation. Et l'homme est ainsi déterminé à le faire. De plus, il n'y a nulle différence entre l'appétit et le désir, sinon que le désir se rapporte généralement aux hommes, en tant qu'ils ont conscience de leurs appétits, et peut, pour cette raison, se définir ainsi, le désir et l'appétit avec conscience de lui-même. Il est donc établi par tout cela que nous ne nous efforçons à rien. Ne voulons, n'appétons ni ne désirons aucune chose, parce que nous la jugeons bonne, mais au contraire, nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous nous efforçons vers elle. La voulons, appétons et désirons.
Moment paisible, éclairage bas, feu bas, le ragoût mijote simplement.
C'est un vieux restaurant, semblable à ceux où Cody et son père mangeaient autrefois, avec le plafond et les portes coulissantes des anciens wagons de chemin de fer. La planche à pain est lisse et usée, comme rabotée par la poussière des miches. Le frigo. Hé, Cody, j'ai préparé des bonnes frites ce soir. est une énorme antiquité en bois brun, dotée de poignées pivotantes, de petites fenêtres, de parois carrelées, bourrées de merveilleuses casseroles d'œufs, de mottes de beurre et de tranches de bacon empilées. Ces anciennes gargotes offrent toujours un plat de tranches d'oignons crus pour accommoder les hamburgers. Le grill, antédiluvien et tout noir, dégage une odeur succulente, évoquant celle de la couenne carbonisée d'un vieux jambon ou d'un pastrami longuement affiné. Dans ce boui-boui, il y a des tabourets au-dessus lisses et illustrés, et des tiroirs en bois qui contiennent les longues miches de pain à sandwich. Les clients du comptoir, des Grecs ou bien des poivrons gros nez rouge. On sert le café dans des chopes en porcelaine blanche, parfois brunie et fendillée. Une marmite usagée contenant 1 cm d'huile noirâtre trône sur le grill. Un panier à frites, lui aussi encrassé, est installé dedans prêt à servir. Dans une petite cafetière blanche toute cabossée, on garde au chaud la graisse fondue. Les coups de chiffon passés sur les taches de graisse font reluire la plaque de zinc derrière le grill. La caisse enregistreuse est pourvue d'un tiroir en bois aussi vieillot que les lattes d'un bureau à cylindre. Les accessoires les plus récents sont le percolateur, les récipients à café en aluminium, les ventilateurs. Mais le comptoir en marbre est fissuré, usé, gravé, superposé à l'ancien comptoir en bois de la fin des années 20 ou du début des années 30, qui en était venu à ressembler au bas des anciens bancs de tribunal, mais couvert d'inscriptions et de marques faites au couteau, ainsi que d'une pâte suggérant des décennies de plats délicieux et bien gras. Ah, cela sent toujours le bouillon de bœuf, comme dans les grandes cuisines des écoles paroissales ou des hôpitaux décrépits. L'odeur marron des cuisines en sous-sol, c'est curieusement l'odeur la plus appétissante d'Amérique, qui évoque la mangeaille plutôt que le raffinement, ou encore l'eau de vaisselle dans une casserole de hamburger. Anonyme, remémorée, sincère, elle fait frémir les tripes des hommes en octobre.
Peu après, je parvins par des moyens dont je dois omettre la description faute de place à gagner Londres. Alors commença la dernière et la plus âpre phase de mes longues souffrances. Je puis dire, sans user d'une expression outrée, de mon agonie. Car je souffris alors, pendant plus de 16 semaines, l'angoisse physique de la faim à des degrés divers d'intensité. Mais aussi cruellement peut-être qu'aucun être humain ne peut l'avoir jamais soufferte sans perdre la vie. Je ne voudrais pas mettre inutilement à l'épreuve la sensibilité de mon lecteur par le détail de tout ce que j'endurais, car on ne peut contempler, fût-ce en description, pareilles extrémités, quand bien même elles seraient le fruit d'une lourde culpabilité ou d'une grave inconduite, sans ressentir une pitié et une affliction douloureuse pour la bonté naturelle du cœur humain. Qu'il suffise de dire, du moins en cette occasion, que quelques bribes de pain ramassées sur la table du petit déjeuner d'un homme, qui me supposait malade, mais ignorait que je fusse dénué de tout, et cela à des intervalles réguliers, constituèrent mon seul moyen de subsistance. Pendant la première partie de mes épreuves, soit le plus souvent au Pays de Galles, et toujours durant les 2 premiers mois de mon séjour à Londres, je n'eus pas de logis, et dormis très rarement sous un toit. C'est à cette constante exposition au grand air que j'attribue surtout le fait de n'avoir pas succombé à mes tourments. Plus tard, cependant, quand le temps se fit plus froid et moins clément, et qu'à force de privation j'avais commencé à tomber en langueur, il fut, certes, heureux pour moi que la même personne au petit déjeuner de laquelle j'avais eu accès me permit de dormir dans une grande maison inoccupée dont elle était locataire. Je la qualifie d'inoccupée car elle ne contenait ni maisonnée, ni installation domestique, ni même de meubles à l'exception d'une table et de quelques chaises. Je constatai toutefois, en prenant possession de mes nouveaux quartiers, que la maison renfermait déjà un habitant isolé, en la personne d'une pauvre enfant sans amis, âgée apparemment de 10 ans, mais elle semblait être affamée. Et les privations de cette sorte font souvent paraître les enfants plus âgés qu'ils ne sont. J'appris de cet enfant abandonné qu'elle avait dormi et vécu là, seule, quelque temps avant mon arrivée. Et la pauvre créature montra une grande joie quand elle sut que je devais être son compagnon à l'avenir pendant les heures où il faisait noir. Cependant, le maître de maison tombait parfois sur nous à l'improviste et très tôt. Parfois, au contraire, il ne venait pas avant 10 heures ou ne venait pas du tout. Il était toujours sur le qui-vive à cause des huissiers, raffinant sur le procédé de Cromwell et couchant chaque nuit dans un quartier différent de Londres. Et je remarquai qu'il ne manquait jamais d'examiner à travers un guichet la physionomie des gens qui frappaient à la porte, avant de la laisser ouvrir. Il prenait son petit déjeuner seul, À vrai dire, son service à Athènes lui eût guère permis de se risquer à inviter une seconde personne, non plus que son ordinaire, qui ne se composait guère que d'un petit pain et de quelques biscuits qu'il avait achetés en revenant de l'endroit où il avait passé la nuit. Si vraiment il avait eu des invités, ceux-ci, comme un jour je lui fis doctement et facétieusement remarquer, auraient dû entretenir, et debout, une relation de succession, comme disent les métaphysiciens, non de coexistence. Une relation temporelle et non spatiale. Pendant son petit déjeuner, j'inventais généralement un prétexte pour m'attarder dans la pièce, et de l'air le plus indifférent que je puisse prendre, je m'emparais des débris qu'il avait laissés, si toutefois c'était le cas. Ce faisant, je ne commettais aucun larcin, sinon dans la mesure où j'obligeais, ainsi, du moins je le crois, le maître de maison à envoyer chercher à midi, de temps à autre, un biscuit de plus. Quant à la pauvre enfant, elle n'était jamais admise dans le cabinet de l'homme, si je puis appeler ainsi son principal dépôt de parchemins, de pièces légales, etc. Cette pièce était pour elle la chambre de Barbe Bleue, car il la fermait régulièrement à clé avant de s'en aller dîner, vers 6 heures, ce qui marquait d'habitude son départ final pour la nuit.
Tiens, j'ai faim. Je vais mordre dans cet oiseau. C'est un poulet, je crois. Il n'est pas mauvais.
Que fais-tu, malheureux? Que mangeront nos invités?
Ah, ils en auront encore bien assez. Je ne toucherai plus à rien. Mère Ubu, va donc voir à la fenêtre si nos invités arrivent.
Je ne vois rien. Ah, voilà le capitaine Bordure et ses partisans qui arrivent. Que manges-tu donc, Père Ubu?
Rien, un peu de veau.
Ah, le veau, le veau, veau! Il a mangé le veau, au secours!
De par ma chandelle verte, je vais t'arracher les yeux!
Bonjour, messieurs. Nous vous attendons avec impatience. Asseyez-vous.
Bonjour, madame. Mais où est donc le Père Ubu?
Me voilà, sapristi! De par ma chandelle verte, je suis pourtant assez gros.
Bonjour, Père Ubu.
Ouf, un peu plus, j'enfonçais ma chaise.
Eh, Mère Ubu, que nous donnerez-vous de bon aujourd'hui?
Voici le menu.
Oh, ceci m'intéresse.
Soupe polonaise, côte de rastron, veau, poulet, pâté de chien, croupion de dinde, charlotte russe.
Eh, en voilà assez, je suppose. Y en a-t-il encore?
Bombe, salade, fruits, dessert, bouilli, topinambour, chou-fleur, à la merde.
Eh, mais crois-tu empereur d'Orient pour faire de telles dépenses?
Oh, ne l'écoutez pas, il est imbécile.
Ah, je vais aiguiser mes dents contre vos mollets.
Dîne plutôt, Père Ubu. Voilà de la polonaise.
Bougre, que c'est mauvais.
Ce n'est pas bon, en effet.
Tas d'arabes, que vous faut-il? Messieurs, nous allons goûter du veau.
Il est très bon, j'ai fini.
Au croupion, maintenant.
Exquis, exquis. Vive la Mère Ubu.
Mère Ubu, passez-moi les côtelettes de rastron que je serve.
Les voici.
À la porte, tout le monde. Capitaine Bordure, j'ai à vous parler. Eh bien, capitaine, avez-vous bien dîné?
Fort bien, monsieur, sauf la merde.
Eh, la merde n'était pas mauvaise.
Chacun son goût.
Un jour, il y a une copine qui a dit « Oh, je mangerais bien du pot-au-feu » ou « Je mangerais bien un truc comme ça ». Et c'est parti comme ça. Il y en a une qui a dû dire « Tu sais faire, toi ?» Et puis voilà. Et puis, il y a un truc beaucoup plus important, c'est qu'on avait faim. Et que la faim, ça fait faire n'importe quoi, quoi. Si vous voulez, quand on copiait les recettes, on salivait quand même. Tu mets de la crème fraîche, tu mets des champignons. Oh, c'était incroyable, quoi. Ça se passait souvent le dimanche, mais où on avait plus de plaisir, c'était quand on faisait les 6 heures de nuit. On avait toute la journée. Et voilà, on s'installait, puis on copiait des recettes. C'était notre passe-temps, hein. Il y avait des filles du Nord, d'ailleurs il y en a pas mal, qui faisaient vraiment de la cuisine. Hein. Alors elles nous racontaient ça. Hein. Puis on les faisait répéter parce qu'il y avait des trucs qu'on connaissait pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors on passait une heure et demie.
Brandade de morue, confiture de betterave, riz à l'impératrice, pommes méringuées.
Moi, je me rappelle un jour, Jean Baumel, puisqu'on parlait de Baumel, qui me pose la question, un dilemme. Il me dit, est-ce que le poulet, tu le préfères à la broche, ou non, à marango, ou à la broche, ou en crapaudine? Ça, c'est des termes... Que pouvais-je répondre à une telle question? Ah, ça me faisait souffrir. Alors moi, j'essayais d'éviter de d'être à portée d'oreille d'eux, parce que ça me faisait souffrir. Alors, tu sais, ils se gavaient de festins de mots parce qu'on crevait de faim.
Œuf dur farci. Épinards à la béchamel. Riz à l'impératrice.
Rillettes de lapin. Bouillabaisse. Soufflé à la crevette.
Salade de riz et fruits. Macarons.
Galette des rois. Moule à la béchamel.
Gâteau économique. Pain au lait de beurre.
Brioche.
Dans ce camp de Fluat, Anne Georget, il y avait également le poète Robert Desnos, qui avait déjà écrit un petit livre sur les recettes de cuisine, qui aimait beaucoup faire la cuisine. Il avait promis à ses compagnons qu'il en écrirait un. Malheureusement, il est mort avant de rentrer.
Oui, il avait écrit avant la guerre, ou au début de la guerre, un précis de cuisine des jours heureux. Et apparemment, c'était pour se souvenir, justement, avant les temps de privation de cette cuisine joyeuse qu'on consommait. Et à Fluat, il avait dit à ses compagnons qu'en rentrant à Paris, il publierait un imprécis de cuisine des jours peureux. Et je crois que c'était une manière de marquer l'importance déjà que ces recettes avaient et que ce rituel pouvait avoir en effet le dimanche où ils se retrouvaient, seul jour de repos, ceux qui étaient trop épuisés étaient sur leur chalet. Et il y avait ce petit groupe, les ambulants de la recette ou les mousquetaires de la fourchette, ils avaient plusieurs noms, qui se regroupaient et qui discutaient pendant plusieurs heures et vraisemblablement Marcel Le Tertre dans un coin consignait tout cela, c'était un peu le scribe.
Elle dérange l'essence de mon esprit, toute cette nourriture que je dois cuire.
Je suis allé chez Hector's, la fastueuse cafétéria de la première vision de Cody à New York, quand il y est arrivé fin 1946, tout excité, avec sa première femme. Ce souvenir m'a attristé. Un comptoir étincelant, des murs décorés, mais personne ne remarque le vieux plafond distingué aux moulures de plâtre presque baroque. Louis XV, peut-être. Aujourd'hui patiné d'une couleur tabac foncé. À la place des anciens lustres, c'est un restaurant depuis belle durée. Il y a maintenant des ampoules électriques dans des garnitures métalliques ou des abat-jours. Mais l'impression générale est de mets éblouissants, disposés sur le présentoir. Ainsi, les murs passent presque inaperçus. Les glaces montant jusqu'au plafond et les colonnes couvertes de miroirs donnent une étrange impression d'espace. Lambris ponctués de patères et pans de murs roses décorés d'images de bas-reliefs. Mais ah, ce présentoir, aussi brillant que la rue dehors. De splendides rangées de plats, une immense vitrine en forme de L. Superbe alignement de jello à la menthe, découpé en dés et disposé dans des verres. Dés de jello à la fraise d'un rouge éclatant, jello mélangé à des morceaux de pêche et de cerise, jello à la cerise surmontée de crème fouettée, flan à la vanille couverte de crème, formidable tarte à la fraise prédécoupée en 12 parts, illuminant l'angle du L, énorme salade, fromage blanc, ananas, prune, salade aux œufs, pruneaux, tout y est, succulente pomme cuite au four, plat débordant de raisins verts pâles ou noirs, immense tourte au fromage, tarte aux framboises et à la crème, somptueux Napoléon ou simple gâteau de Boston, armé d'éclairs, gâteau au chocolat d'un noir profond, brillant d'une lueur brune et scatologique. Strudel présenté dans leur moule profond, plat du temps et du fleuve, petit gâteau à peine sorti du four, dessert à la fraise et à la banane couvert de sucre glace, formidable gâteau glacé à l'orange. Pyramide de desserts glacés composés de framboises, de crème fouettée et de langues de chat plantées dedans. Vaste surface du présentoir réservée aux splendeurs des gâteaux au café et des roussettes danoises. Tout cela parsemé des bouteilles blanches d'un lait follement onctueux. Suit la montagne des petits pains. Puis les choses sérieuses. La section odorante, fumante, palpitante des plats chauds. Agneau rôti, côte de porc rôti. Steak grillé, poitrine d'agneau cuite au four, poivron farci, poulet bouilli, poulet farci, de quoi mettre l'eau à la bouche des malheureux désargentés. Énorme quartier de viande tout droit sorti du four, un grand couteau posé à proximité, et le serveur à la main habile qui découpe dedans des tranches minces comme une feuille de papier. puis le rayon du café, les pots, les embouts chromés d'où jaillit crème et vapeur. Mais surtout, c'est la douce lueur de ce présentoir étincelant, d'où les bienfaits pleuvent, la promesse d'une joie mirifique dans la grande ville des merveilles. Pourtant, je n'ai pas encore évoqué l'apothéose des présentoirs. La zone réservée aux viandes froides, aux sandwichs et aux salades. Avec ses montagnes de victuailles en tout genre couvertes de fromage blanc, saupoudrées de ciboulette et d'autres épices savoureuses, le saumon fumé rose et appétissant, le jambon froid, l'emmental, tout ce présentoir nimbé d'une joie glacée, piquante et nourrissante, poisson froid, hareng, oignon, formidable miche de pain de seigle coupée en tranches, etc. Toute une carrière de plats, pentacruéliques, salade aux œufs décorée et présentée dans une casserole, en grande ondulation sensuelle, salade de saumon. Pauvre Cody, campé devant cette débauche culinaire avec ses chaussures éculées de Denver, son costume pseudo-bohème qu'il avait tenu à mettre pour se faire accepter dans les cafétérias de New York, qu'il imaginait aussi terne et banale que celle de Denver, remplie de plats ordinaires.
Excusez-moi.
Pardon, ma sœur, pourquoi vous ne nous servez pas ?
Les ordres de Mère Alberto sont très clairs. On ne sert à manger qu'à ceux qui ont assisté à la messe.
Qu'est-ce qu'il y a ?
On ne nous sert pas à manger parce qu'on n'est pas allé à la messe.
Qui a dit ça ?
Saint Alberto.
Ma mère ?
Oui, jeunes gens.
On aimerait manger si c'est possible.
On l'a bien mérité, comme les autres pensionnaires.
Mais vous n'êtes pas allé à la messe ?
Non.
Dans ce cas, comment espérez-vous nourrir votre corps si vous n'avez pas nourri votre âme ?
Oh, madame, c'est pas très chrétien de refuser de nous donner à manger.
Je crois que votre réaction
est... Jean, dans cette maison, nous avons un règlement, et c'est aussi valable pour vous.
Ben, j'ai lu aucun règlement, moi.
Moi non plus. Je te jure, si je le trouve, je le bouffe, le règlement.
Le repas ridicule. Une fois n'est pas coutume, allons au restaurant. Nous payer du caviar et de petits ortolans. Consultons le journal et la rubrique esbrouf, révélant le bon coin, pour pas cher on bouffe. Nous irons à celui-ci, nous irons à celui-là, mais il y a des objections. L'un aime ci, l'autre aime ça. Je propose. Engouffrons notre appétit peu mince, au bistrot le troisième après la rue Huygens. Tous d'accord, remontons le boulevard Raspail, jusqu'au bar où l'on suce la mousse avec des pailles. Hans William Vladimir et Jean-Jacques Dupont avalent goulûment de la bière en ballon. Avec ses chers amis d'un pas moins assuré, nous trouverons enfin le petit endroit rêvé. Les couteaux y sont mous, les nappes y sont sales. La serveuse sans femme, sans phare, parfume toute la salle. Le patron, un gourmet vous fait prendre, c'est fou. Du pipi pour du vin et pour du foie du mou. La patronne a du cran et rince les sardines avec une huile qui fait huile paraffine. La carne nous amène un rôti d'aspect dur, orné concentriquement de légumes impurs. Elle vous proposera les miettes gluantes d'une tête de veau que cognurent les lentes. Elle proposera les panards englués d'un porc qui négligera toujours de les laver. Peut-être qu'un produit à l'état naturel échappera aux méfaits de la putréfiante femelle. Voici, ma belle enfant, un petit nerf de bœuf que vous utiliserez pour casser tous vos œufs. De l'omelette jaune où nage le persil, elle fera hélas un morceau d'anthracite. Ce bon charbon croquant, bien craquant sous la dent, se blanchira d'un sel sous la dent bien crissant. Plutôt que de noircir un intestin qui grêle, nous dévorerons la simili porcelaine. L'hôtesse, nous voyant grignoter son ménage, écaillera les murs de l'ampleur de sa rage. Alors avalerons fourchettes et couteaux, avant d'avec vitesse enfiler nos manteaux. Fuyards, nous galoperons dans la rue où ça neige, sans peur de déchirer la couture de nos grèges. Nous, restaurant au bout de 50 ou 100 mètres, nous verrons le souillon jouer au gazomètre. Et nous péter au nez ces infâmes insultes, patronnes de bistrot, empoisonneuses occultes.
Le collage est terminé, on espère que ça vous a plu. Les items étaient extraits dans l'ordre de l'éthique de Spinoza. Des visions de Cody de Jacques Kerouac et aussi deux haïkus de Kerouac, les confessions d'un mangeur d'empire anglais de Thomas de Quincey, du bureau d'Alfred Jarry. Et après ce morceau de théâtre, nous avons entendu un extrait de Kathleen Evin, L'humeur vagabonde, un autre morceau des Visions de Cody, puis un extrait de Carnet de voyage de Walter Salles, enfin que non. Vous êtes toujours sur Radio Campus, la fréquence 106.6, l'émission DT Fabula Narratour, et tout de suite, la purée, selon Salut c'est cool.
Salut! J'aimerais savoir comment faire une bonne purée. Je sais déjà faire la ratatouille, les endives au jambon, le gratin. Et plein d'autres plats qui n'ont rien à voir avec une bonne purée. Quel est votre secret? Le lait? Le beurre? La crème? Quel est votre secret?
Ce qui est pas mal quand on cuit les pommes de terre, c'est de mettre du laurier et du thym pour parfumer en amont. Après, tu peux ajouter n'importe quelle épice. Tu peux mettre du safran, du curcuma, du gingembre, ou une gousse d'ail une fois que les patates sont pétries. Et si la purée a cramé, recouvre-la avec un chiffon mouillé et fais couler du sel dessus pour absorber les senteurs de brûlé.
Mais c'est pas vraiment ça que j'avais demandé. Le problème avec ma purée, c'est qu'elle n'est pas onctueuse. Peux-tu m'expliquer comment obtenir une texture parfaite?
La purée onctueuse, ce qu'il faut déjà, c'est pas trop la mélanger ou l'écraser. Puisque comme dans la purée, il y a du gluten, ça va devenir très élastique. L'utilisation du presse-purée à levier permet d'obtenir une purée plus fine et légère. Et dans la texture, car la purée trop collante est vraiment très décevante. Pense à ça avant de cuisiner, et tu réussiras une bonne purée. Tu verras, c'est plus facile que ça en a l'air. Et surtout, après ça, tu ne voudras plus d'une autre purée. J'ai 4 hommes à la maison, et ils se régalent tous. Il n'en reste jamais.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus à Lille 106.6, l'émission d'été Fabula Narratour, et tout de suite, un papier de Thibaut. C'est à toi.
Pour Victor. Porte de la viande, le rat des villes, et le rat des champs, le chien. Partie 1. Morceau de viande plus gros. Aussi, lâchant le sien de tout son cœur, et il maudissait sa propre fortune, et le blé. Et avec cela les figues, le fromage et le miel. Moi, au contraire, je débien en abondance. Le rat de maison, invité par son ami, s'empressa. Puis, comme ils revenaient tous deux pour prendre des figues à l'intérieur de la chambre, le résultat fut qu'ils n'eurent ni l'un ni l'autre. L'un eut un trou pour s'y cacher. Et alors le rat des champs dit « Adieu, mon ami, tu manges à satiété, et tu t'en donnes à même pas. » Et l'autre, ayant été entraîné par les mille craintes, « Moi, pauvret, je vais vivre en craindre, ni suspecter personne. » Un rat des champs avait pour ami un rat de maison. Allait dîner à la campagne. Il dit « Sais-tu bien, mon ami, que tu mènes une vie de fourmi ?» Un chien tenant un morceau de viande traversait une rivière. Ayant aperçu son ombre dans l'eau, il dit « Viens avec moi, je les mets tous à ta disposition. » Ils partirent aussitôt tous les deux. Le rat de maison fit voir à son camarade des légumes, des fruits. Et celui-ci, émerveillé, le bénissait et crut que c'était un autre chien qui en tenait un. Comme il s'apprêtait à commencer le festin, soudain, un homme ouvrit la porte. Partie 2. Effrayé du bruit, Nora. Mais comme ils n'avaient rien à manger que de l'herbe et du blé, se précipitèrent peureusement dans les fentes sèches. Mais une autre personne vint chercher quelque chose. Ils s'élancèrent pour enlever celui de son compère vu. Ils se précipitèrent encore une fois en oubliant la faim, soupirèrent, et l'un dit à l'autre. Trouvant hors de ses prises, puisqu'il n'existait que courant. Cœur de joie, mais au prix du danger, et dégrignotant de l'orge et du blé.
Alors, je crois que tout de suite, ça va être... la fameuse, l'attendue chronique aléatoire. On a un petit jingle pour ça.
La chronique aléatoire.
Il est 15h36 et 42 secondes, le journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous écouter sur les ondes de Radio Campus. Point people pour commencer. Le célèbre fils de Intel aurait déclaré en public renoncer à l'héritage de son papa, aussi bien matériel qu'immatériel, allant jusqu'à renier la paternité de son géniteur. S'inscrivant en cas d'école, le fiston s'est dispensé de sa propre généalogie, affirmant qu'il ne pouvait plus tolérer être le dernier d'une lignée, se récriant qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec ce patrimoine et cette filiation. Le rejeton a d'ailleurs été beaucoup plus loin puisqu'il s'est empressé d'enflammer, aux yeux d'un public ébahi, son livret de famille ainsi que son acte de naissance, tout en scandant la phrase « Je ne suis plus un enfant, je ne suis plus l'enfant de personne ». Point société maintenant, cela fait maintenant quelques semaines que la municipalité de Twist doit faire face à des dégradations régulières sur les façades de ses maternités. En effet, c'est un véritable duel qui se joue entre les forces publiques de nettoyage et un groupe de taggeurs anonymes agissant à l'insu des regards. Plusieurs fois par semaine, les deux mêmes textes se voient reproduits sur les maternités aux yeux scandalisés des riverains. C'est un nombre égal de fois que les unités spéciales d'intervention de nettoyage urbain doivent effacer ces dégradations. Voici les textes qui sont au cœur de cet affrontement. Père, père, où vas-tu? Ne marche pas si vite. Oh père, parle, parle à ton petit garçon, autrement je serai perdu. Et voici le second texte tagué sur ces maternités donc. Ma mère gémit, mon père pleura, j'entrais d'un bond dans le monde, dans le périlleux monde, démuni, nu, et je pleurais très fort comme un démon caché dans un nuage, me débattant dans les mains de mon père, me démenant aussi contre la lange, ligoté, épuisé, finalement je pris le parti de bouder sur le sein de ma mère. Retournons à présent à nos régions, avec une production tout à fait originale et traditionnelle qui voit le jour en cette période de fin d'année. La petite entreprise Child and Hood n'a pas hésité à profiter de l'approche de la fête de Saint-Nicolas pour promouvoir son nouveau produit de fabrication artisanale avec des produits 100% locaux, le petit salé. C'est une recette originale faite à base d'enfants coupés en petits morceaux et mis au saloir comme pourceau, chaque cru devant vieillir au moins 7 ans. À déguster pendant les repas ou en apéritif, rendez-vous donc aux amateurs de charcuterie. Découverte surprenante en Irak et en Asie mineure, d'une région jusqu'alors inconnue et dont on ne trouve quasiment aucune trace écrite, Ugbar. C'est à l'explorateur James Cook que nous devons la révélation de cette contrée pleine de promesses et d'intérêt pour le grand public, mais également pour la communauté scientifique dont les éminents instituts d'historiographie et de recherche géographico-ethnologique Clark & Co. et Deleville. C'est hier soir, le 22 avril 2017, à 20h40, que le fameux voyageur Cook a officiellement annoncé l'existence de la région de Ugbar, affirmant que ses observations, repérages et mesures paraîtraient bientôt sous le titre de « Peuplade, climat et musique d'ailleurs » aux éditions Tlon. Parmi les quelques anecdotes rapportées de son voyage, nous vous rapportons celle-ci. L'hérésiarque de Ugbar, autorité politique et religieuse donc, affirmerait l'univers visible est une illusion ou un sophisme, les miroirs ou la paternité sont abominables parce qu'ils le multiplient et le divulguent. Ainsi, fait curieux s'il en est, on ne trouverait dans la région de Ugbar aucun miroir ni aucun enfant. Enfin, nous terminons avec le résultat du célèbre tirage au sort de l'émission « Cette histoire dont vous êtes le héros ». Cette semaine, le couple gagnant n'est autre que Infotrafic Enfantin. Donc bravo à notre gagnant. J'espère que l'auditeur se reconnaîtra et se manifestera auprès des points de vente en temps et en heure afin de profiter de son gain et de remplir son dû auprès de la communauté radiophonique.
Alors, c'est peut-être pas le bon son.
Petit problème de son.
Voiture Infotrafic, voulais-tu ?
Tout à fait.
C'est mieux.
Retrouvez votre information trafic. Aujourd'hui, sur nos routes, le trafic est inégal. Sur l'A678, en direction de Bafus, au niveau de la sortie Alpha, la circulation sera perturbée. Un accident a eu lieu au croisement entre la 110e et Copperfield Street et provoquera un ralentissement sur les 2e et 3e files. Le trafic est ralenti mais régulier tout au long de la N-1. On signale également la voiture rouge qui va vite et le camion vert avec des grosses roues et qui peut klaxonner fort. Et il y a aussi le 4x4 égale 16, lui aussi tout terrain, sauf que ben là il est en panne. Et puis il y a la moto aussi qui va très 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 vite. Les travaux sur la bretelle sud imposent aux usagers de la route une déviation circulaire. Ceux-ci devront continuer à rouler en circuit fermé le temps que l'intervention des services qualifiés soit terminée. Nous vous signalons également sur le bord de la chaussée, au niveau du péage 1235, une colonie de vacances autostoppeuses. Et nous vous prions de ne pas vous arrêter, pour votre propre sécurité. Enfin, un individu dangereux circule actuellement en tapis volant sur la rocade principale. Soyez vigilants au volant. Le bulletin météo. À Neverland, tout comme au Pays des Merveilles, il n'y aura pas de perturbations à prévoir aujourd'hui. Le ciel sera bleu et le soleil au rendez-vous avec des températures allant de 18 degrés le matin et jusqu'à 26 degrés dans l'après-midi. Le Pays d'Oz se verra traversé aujourd'hui par un anticyclone et subira des précipitations à l'est en pays de Munchkin sous forme d'averses passagères, ainsi qu'à l'ouest en pays de Winky, où cette fois nous aurons de gros orages et de fortes pluies. Au nord et au sud, au pays d'Ilkin et Quadling, le ciel sera couvert et nuageux, ne laissant apparaître les rayons du soleil que lors de rares éclaircies. Dans l'ensemble du Pays d'Oz, les températures seront constantes, allant de 8 degrés Celsius le matin à 17 degrés l'après-midi, affichant même 18 dans la capitale, la cité d'Emeraude. À Lilliput, le vent soufflera en bourrasque, allant jusqu'à 22 km/h, mettant en grand péril ses habitants. La journée s'annonce brumeuse et impénétrable, propice aux rêves à Slumberland. Les températures y sont inconnues. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Raspoutine. Bonjour et bienvenue, voici le Radio Achat, Radio Braderie. Bientôt Noël, c'est l'occasion de vous faire plaisir, à vous et à vos enfants et vos petits-enfants. Cette semaine, vous avez le droit en exclusivité à notre tout nouveau tire-lait pour jeunes mamans. Vous en avez marre de perdre votre temps en tirant le lait pour vos enfants ? Dites adieu l'ennui. L'incroyable tire-lait Fusion inclut un double écran XXL qui vous permet de regarder vos émissions préférées. Le tire-lait Fusion vous permet également, grâce à son action électromagnétique, de favoriser la pousse de vos ongles et cheveux. Peu volumineux et facile à transporter, emmenez le tire-lait Fusion partout avec vous. Ne manquez pas notre offre incroyable, 1 acheté égale 1 offert. Commandez dès à présent pour la modique somme de 49,99 couronnes. Vos enfants vous donnent du fil à retordre ? Vous ne savez plus comment en venir à bout ? Ne cherchez plus, nous avons la solution. Le système Motor GX45. Ce nouvel appareil révolutionnaire vous permet de reproduire en toute sécurité vos enfants et ainsi de les substituer à des répliques dociles en tout point identiques. Peu coûteux en énergie, de simples piles standards suffisent à son alimentation. Le système Motor GX45 inclut également des nouvelles fonctionnalités et vous permet d'ajouter des attributs à vos répliques. Amusez-vous à modifier l'anatomie de vos enfants. Seulement 45,99 écus. Profitez de notre offre incontournable et de la réduction de 30% valable seulement jusqu'à demain soir. Vous regrettez de voir arriver les stigmates de l'âge sur votre corps ? Ne perdez plus de temps à contempler les ravages du temps dans un miroir. Optez pour la combinaison Ultra Plus, qui vous raffermira et vous modèlera pour vous faire retrouver votre physique enfantin. Fini les rides, bonjour les corps frêles et roses. La combinaison Ultra Plus a été testée en laboratoire par nos plus grands spécialistes et elle est recommandée par le docteur Morel. Son efficacité se fait ressentir en seulement une semaine. Une fois testée, vous ne pourrez plus vous en passer. Achetez-la au plus vite parmi les derniers 22 exemplaires de notre stock. 199,99 sesterces seulement. Retrouvez également notre gamme de modèles d'occasion à moitié prix. Pour toute commande, composez le 00 042 043 042 043 28 12. Service non surtaxé, prix d'un appel local plus 28 copecs la minute. Livraison à domicile sous 12 jours ouvrés et 48 jours fermés.
Eh ben, merci beaucoup Arthur. Peut-être il faudrait qu'on rappelle quelle était la... Même si tu l'as fait au passage dans ton texte, la contrainte était...
Tout à fait, la contrainte c'était infoservice et enfantin, les deux termes de la chronique.
Effectivement. Est-ce que tu peux procéder au tirage au sort pour la prochaine ? D'ailleurs, on ne sait toujours pas tellement qui fera le papier, mais au moins on aura la contrainte.
Tout à fait. Ok, donc c'est parti. Et donc, on a le numéro 8.
Alors, le 8... le 8, c'est... alors, attends. J'ai oublié. Si, une date d'histoire. Voilà, une date d'histoire.
Ok, donc le deuxième... Et là, on est tombé sur donc, le numéro 5.
Optimiste. Ok.
Date d'histoire optimiste, donc.
Très bien.
On va se battre pour un sujet pareil.
J'imagine. Tout de suite, je vous propose, donc vous êtes toujours sur Radio Campus à Lille 106.6, et je vous propose d'écouter Hungry Ham de un certain nombre d'artistes. See, this is Harlem, these side streets. Hungry him, that's all we can. Niggas out here shining, niggas dying, hating niggas. We never got along. We all go get it, we go get it. Some gon' fake it, half won't make it. Get a chance to make it out, we taking it. Block, hungry him, cause that's my block. 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 Hungry him, nigga, what's your block? Hungry him. Grandma used to call me Mickey Mouse, but I'm no rat. On the block, they threw a couple bullets, Warren Sapp. See my nigga family members bugging up the crack. Your uncle smell like shit, like he got garbage in his ass. I'm from work by the dirt, I come from Hungry Ham, you hurt. Where them pigs that lay it down, I make a nigga bite the girth. Them kids is popping perks because they claim it cool, they nerve. My crazy ass neighbors sprinkle cool. Neighbor Sterling, smell like shit by me urine. When my bitches come over, they have the liquor concerning. Like, why he standing that hallway with a milk carton and be lurking? Why he jumping for joy with the whole building which is burning? What about that nigga Sash? Water socks on his hands. Purple coats in the summer with the Glock in his pants. And he stabbed his own mama. How you do that to your fam? Cause my block full of lunatic. Oh, my shit hungry, I am down. Hungry hands, cause that my block. Hungry hands, cause that's 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 my block. Hungry hands, nigga, what's your block? Hungry hands, nigga, fuck your block. 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 Hungry hands, better wear your block. Hungry hands, better wear your block. Hungry hands, better wear your block. I'll be back, nigga. Yeah, Sharon, I don't know what's going on. I seen your son on the corner, and he was chilling with all of them. My auntie asked my mama, did Daryl quit his job? I seen him 3 days straight sitting on a cop. My mama screaming, Daryl, come on, you ain't quit your job. Mama, yes, I did. My mama barking like doggies in front of my aunt and my shorty. Yeah, tell her I am a rapper. She suck her teeth and ignore me. All she seek is my goatee with a white bitch and some 40s. I'm getting fame on computers. She don't think this shit is for me. I used to pray for my woman. Now I get dozens of OGs. When I be hitting the doggies, she bark like...
why I'm horny. I mean, when you want sex, you calling me, telling me how much you want me, but I think you feel a baloney. I ain't stressing you, shorty. My shorty be stressing me, shorty. Claiming I'm messing with shorties and be addressing them, shorty. I ain't get no hair from them shorties. Don't be in a bed with them shorties. Now what these condoms for, then? You don't say these magnums is funny.
Are you serious? What the fuck is this?
I'm from Hungry Hand. Y'all ought to know, better get your ass another plane. If you wanna blow, can't pay this corner for no more summers. If you get my flow, be catching people, check me, this is buzz. Hungry Hand, cause that's my block. 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 Hungry Hand, nigga, what's your block?
Alors ça y est, j'ai retrouvé le nom des artistes dont, qui étaient, qui ont fait cette chanson. Donc c'est A$AP Ferg, Skrillex et Crystal Kanes. Et le morceau s'appelle Hungry Ham.
L'anecdote.
On vous rappelle que l'anecdote est cette petite chronique conclusive où l'on essaie de parler de passages singuliers et un peu curieux, anecdotiques comme son nom l'indique. Et donc Nicolas, tu nous as pêché l'anecdote dans un bouquin de cuisine ?
En quelque sorte. Avant d'y venir, je voudrais revenir sur les recettes dont il a été question pendant le collage. Hein. Nous avons entendu les extraits d'un documentaire intitulé Festin imaginaire. Documentaire donc, qui met au jour les livres de cuisine qui ont été écrits par des déportés dans les camps de concentration nazis. Et après cette évocation, nous avons entendu la réalisatrice Anne Georget qui reliait ses livres de recettes aux précis de cuisine pour les jours heureux de Robert Desnos, écrit en octobre 1942. Donc le précis est d'ailleurs dédicacé à Jonathan Swift, qui fera partie de notre collage la semaine prochaine.
Et tu nous fais tâter un peu de texte ?
Alors le premier paragraphe à la dédicace pour Swift. Votre nom, écrit Desnos, au début d'un traité qui se propose d'apprendre à tous l'art de la bonne cuisine, pourra surprendre le lecteur et vous-même. Gulliver, en effet, ne s'est pas donné la peine de recueillir les recettes de Lilliput et de Brobdingnag. Il se borne à nous dire que, dans le premier de ses royaumes, il avait droit à une ration journalière, de viande et de boisson, suffisante à la nourriture de 1874 indigènes. Dans le second, il dut se contenter de miettes de pain, de parcelles de viande et du contenu d'un verre à liqueur contenant, il est vrai, 12 pintes. Mais ce célèbre voyageur, si sagace d'ordinaire, si curieux des coutumes, ne nous livre la formule d'aucune sauce, ne nous renseigne pas sur le mode de cuisson et garde secrète la saveur des crus. Tout au plus consent-il à dire qu'un certain vin blanc était diurétique, ce qui lui permit d'éteindre un incendie, d'ailleurs au péril de sa vie. Donc voilà, ce petit extrait donne... j'espère envie de dévorer ou de redévorer les voyages de Gulliver et de savourer la poésie désarmante de Desnos. Pour ma part, il me semble que Colibrius a fait, il n'y a pas très longtemps, écho à cette anecdote. Mais bon, peu importe. Pour ceux qui souhaiteraient le lire, c'est très court, hein, ce précis de cuisine pour les jours heureux. À peine 7 feuillets, le texte original dactylographié se trouve facilement sur Internet et le lien sera indiqué sur notre WordPress, dont on vous redonnera l'adresse tout à l'heure.
Une autre petite anecdote peut-être à propos des recettes de cuisine ?
Oui, Georges Perec a lui aussi écrit des recettes. Elles sont insérées dans Pensées classées, le premier recueil posthume de petits essais assez amusants. Ainsi, entre une note qui s'intitule « Je me souviens de Malé Isaac » et une esquisse socio-physiologique consacrée à la lecture, se trouvent les 81 fiches cuisine à l'usage des débutants. Je voudrais vous en lire quelques morceaux à l'aide de Thibaut et de Jean-Sébastien Bach pour vous appâter. Je voudrais bien que ça se mette dans l'ordre quand même.
La sole aux champignons.
Levez à cru les deux filets de belle sole, mettre à four moyen pendant 40 secondes en arrosant fréquemment. À mi-cuisson, ajoutez 250 g de champignons de Paris, dressés sur le plat de service préalablement chauffé et saupoudrés largement de 4 épices.
Le lapin en noyer.
Tartinez généreusement deux jeunes lapereaux de moutarde forte. Les mettre dans une cocotte dont on aura garni le fond de quelques bardes et de carottes émincées, tomates fraîches et oignons nouveaux. Déglacer au noyer. Servir avec de la ratatouille.
Le riz de veau à ma façon.
Escalopez finement 4 riz de veau que vous aurez auparavant fait dégorger dans une eau légèrement citronnée. Mettre à four moyen pendant 40 minutes en arrosant fréquemment. Ajoutez hors du feu 1 décilitre de crème double. Servir avec des œufs battus en neige très fermes.
La sole à la crème.
Levez à cru les deux filets de belle sole. Les mettre dans une cocotte dont on aura garni le fond de quelques barres des carottes émincées, tomates fraîches et oignons nouveaux. Ajoutez hors du feu 1 décilitre de crème double. Dressez sur le plat de service préalablement chauffé et saupoudrez légèrement d'estragon.
Le riz de veau flamande.
Le riz de veau flamande. Escalopez finement 4 riz de veau que vous aurez auparavant fait dégorger dans une eau légèrement citronnée. Faire partir à feu vif dans une grande sauteuse, puis baisser la flamme et laisser mijoter. À mi-cuisson, ajoutez 250 g de champignons de Paris, dressés sur le plat de service préalablement chauffé et saupoudrés largement de cassonade.
Le lapin à la bourguignonne.
Tartinez généreusement deux jeunes lapereaux de moutarde forte, mettre à feu moyen pendant 40 minutes en arrosant fréquemment, déglacer au noyer, envoyer à part une saucière de sauce bourguignonne.
Le riz de veau grand-mère.
Escalopez finement 4 riz de veau que vous aurez auparavant fait dégorger dans une eau légèrement citronnée. Les mettre dans une cocotte dont on aura garni le fond de quelques bardes et de carottes émincées, tomates fraîches et oignons nouveaux. À mi-cuisson, ajoutez 250 g de champignons de Paris, envoyez à part une saucière de sauce au capre.
Le lapereau à la moutarde.
Tartinez généreusement deux jeunes lapereaux de moutarde forte, mettre à four moyen pendant 40 minutes en arrosant fréquemment. À mi-cuisson, ajoutez 250 g de Paris, servir avec des crêpes vaunaciennes. Bon, je m'arrête maintenant avant l'indigestion. Je pense que c'est assez ici pour que vous perceviez le principe de la composition de ces fiches. Du lapin, du veau, de la sole, un petit nombre d'ingrédients pour les accommoder, les champignons de Paris, le noyer, la crème double, etc. Et vous comprenez que le jeu de la combinatoire des différents éléments, la cuisine de Pérec, épuise les possibilités et guide la composition. Ce qui importe pour Pérec, c'est la systématicité. Que ce soit dans l'enquête sur la vie quotidienne, endotique comme il dit, qu'il s'agisse de la description de la rue Villain, etc. Le souci de composition doit être un peu systématique. Pourquoi ? Peut-être parce que le regard du poète doit pénétrer les choses avec autant de persistance, d'insistance que le regard scientifique. Pour ceux qui voudraient aller plus loin avec Pérec, j'indiquerai sur le WordPress le lien vers l'article sur lequel je me suis appuyé pour rédiger ce papier. Voilà, tout de suite, je pense qu'on va écouter, si vous en êtes d'accord, Moondog. Et donc, merci d'avoir écouté notre émission D'été Fabula Narrator. Hein. D'été Fabula Narrator, ça signifie quelque chose comme ceci est votre histoire. Donc, n'hésitez pas à vous en mêler. Mailez-nous à l'adresse fabulanarrator@laposte.net. Ou éventuellement, vous pouvez venir nous rencontrer à 16h à la sortie du studio. Cette émission a été préparée par Arthur et moi-même Nicolas, secouru par Thibaut et Razal, que je remercie vivement de nous avoir prêté sa voix et son concours pour la première fois. C'est un grand plaisir d'entendre de nouvelles voix.
Bienvenue.
On vous remercie.
Nous avons élaboré également cette émission en pensant aux suggestions de Victor, d'Estelle et de Justin, qu'ils soient ici remerciés. Et si vous voulez retrouver nos précédentes émissions, vous pouvez aller sur notre blog fabulanarratourblog.wordpress.com. Oui, voilà, j'avais encore une ambiance à vous faire écouter. Alors, cette ambiance particulière, c'est je vais trouver la bonne annonce, oui. C'est un certain clan de chat. Vous pouvez l'écouter sur freesound.org/people/clanchap. Alors je suis obligé de le citer parce que c'est le principe d'attribution de son ambiance. Et aussi du coup vous aurez la référence sur le bonne semaine.